cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jean-d'Arc le 12 avril 1988.
Nous reprenons la métaphysique. Alors je reprends, si vous voulez, pour qu'on voit bien la recherche que nous faisons actuellement sur le problème de la quantité. Le propre de la philosophie première, c'est d'essayer, à partir du jugement d'existence, ceci est de comprendre ce que représente, ce que signifie l'être, l'exister. On part toujours de ce jugement d'existence, puisque c'est le jugement d'existence qui lui-même fait poser le problème. Quand on dit ceci est, ceci existe, si je mets l'accent non pas sur le sujet ceci, mais sur exister, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'exister? Et je me pose la question à partir de toute une série de jugements d'existence, en impliquant le « je suis ». Toutes les réalités qui sont autres que la mienne, que je peux expérimenter, je dis « elles existent ». L'ami existe. L'œuvre d'art existe. Tous les vivants que je rencontre, ils existent. Comment se fait-il que toute cette diversité existe? C'est à partir de cette diversité et en même temps l'unité dans cette diversité que se pose la question, qu'est-ce que c'est que l'exister? Qu'est-ce que c'est que l'être? Il faut tout le temps venir à cette question. Il faut bien comprendre que cette question est à la fois très élémentaire, c'est vrai, et en même temps extrêmement subtile, puisque toute la diversité des déterminations modifie l'exister, mais l'exister comme tel, dans sa signification propre, est au-delà. C'est ce que je peux tout de suite constater, ça. C'est ce que Maritain, ou plus exactement Raïssa, appelle l'intuition de l'être. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas au sens strict de l'intuition de l'être, il s'agit plutôt de constater que l'exister est au-delà de toute la diversité des réalités. L'exister est dans ces réalités. L'être ne fait pas nombre avec ces réalités. Ces réalités existent. Et elles existent de telle, telle manière. Mais l'être de ces réalités n'est pas lié à cette modalité. C'est pour ça qu'en réalité, quand on voit à travers le jugement d'existence, la diversité des jugements d'existence, la diversité des ceux-ci, et en même temps que l'exister est toujours attribué à ces divers ceux-ci, il y a à ce moment-là un étonnement. Qu'est-ce qui est au-delà de toutes ces déterminations? Voyez, et ceci prend tout son caractère quand j'ai déjà établi dans une sorte de propédeutique la table des catégories. De toutes les déterminations qui sont en moi, qui sont autour de moi. La qualité, la quantité, la relation, l'action, la passion, tout ça est dans descriptif et c'est antérieur à toute analyse philosophique. C'est comme une donnée très fondamentale. C'est pour ça que ça fait partie, si vous voulez, de la propédeutique, en quelque sorte. L'analyse des catégories d'Aristote. On ne les a pas changées depuis. C'est curieux. Quand on a toutes ces diverses déterminations et qu'on voit qu'il y a un au-delà de ces déterminations, l'exister. Puisque l'exister, l'être, est présent dans toutes ses déterminations. Pierre mesure telle taille, tel poids, il a tel poids, il a telle relation, il est capable de telle ou telle activité. Toutes ces modalités qualifient son être, ne sont pas extrinsèques à son être. C'est son être. Ça fait partie de ma propre personne. Et pourtant, c'est exister, puisqu'il est présent dans toutes ses déterminations, et donc en lui-même, au-delà de ses déterminations. Et c'est ce que Heidegger, à sa manière, a remis très en lumière pour nous. Quand il fait cette distinction entre les étants et penser l'être. Je ne vais pas suivre Heidegger, mais c'est intéressant qu'il repose le problème d'une manière différente. Les étangs, c'est les catégories. Et au-delà de cela, il y a penser l'être. Et penser l'être, pour lui, c'est justement la seule chose qui est intéressante. Les étangs, nous dirions, les catégories, ça n'a pas un intérêt philosophique de première classe, bien que c'est indispensable, on ne peut pas les quitter. C'est là la différence avec Heidegger. Heidegger rejette tous les étangs pour que l'être apparaisse. Donc il y a dans sa méthode philosophique quelque chose qui de fait reste en dépendance de la dialectique hegelienne. Il faut nier tous les étangs pour que l'être apparaisse. Alors que nous disons que c'est à travers les catégories, sans les nier, mais en les dépassant, que nous découvrons ce qui est. Il y a là quelque chose de très différent et qui est intéressant à mettre tout de suite en parallèle. Parce que dès qu'on met en parallèle, on voit beaucoup mieux cette position heideggerienne qui est encore une position dialectique. Parce que si je rejette tous les étangs, je ne sais pas comment je saisis l'être. Puisque l'être ne m'est jamais donné en dehors des étangs. Alors, c'est pour ça qu'il dit « penser l'être ». Et c'est là où on voit très bien que Heidegger tout en voulant dépasser l'idée d'être, ne dépasse pas la pensée de l'être. C'est très étonnant, ça. Parce qu'il veut à tout prix dépasser l'idée d'être, c'est-à-dire cette idée qui est au cœur de toute la métaphysique, dit-il, traditionnelle. En réalité, c'est la métaphysique de Suarez. C'est pas celle de saint Thomas, ni celle d'Aristote. Ça, Heidegger ne l'a jamais vu. Donc là, il y a quelque chose au point de vue de l'interprétation de la métaphysique qui reste très court. Il regarde une métaphysique qu'il appelle la métaphysique traditionnelle. Il ne faut pas l'oublier, ça. Parce que quand il rejette la métaphysique en disant qu'elle est terminée, en réalité, c'est un type de métaphysique qu'il rejette. Et lui, c'est la métaphysique. Donc, voyons bien comment nous ne pouvons pas nier toutes les catégories pour découvrir l'être. Parce que mon expérience, je dis bien mon expérience, porte toujours sur telle ou telle détermination. Mais ce qui est vrai, c'est que le jugement d'existence dépasse ces déterminations. Mais au sens strict, je n'expérimente pas le jugement d'existence. Il est comme une méta-expérience. Dans l'expérience, je pose le jugement d'existence. Et c'est très curieux, parce que ça montrerait que d'une certaine manière, nous n'avons pas l'expérience de l'être en tant qu'être. Nous avons l'expérience de telle réalité existante. Je n'ai pas l'expérience de l'exister pur. C'est à travers les diverses réalités existantes que mon intelligence, et je dis bien mon intelligence, au-delà des sensations, touche quelque chose. Ceci est. Les sensations portent sur les déterminations. On dira sur les qualités. Mais mes sensations ne touchent pas l'être. Seule l'intelligence touche l'être. Et ceci, c'est le jugement d'existence qui me le met en pleine lumière. Il faut toujours bien se rappeler cela et comprendre que la philosophie première regarde parmi les existants, l'homme, en premier lieu. C'est là où je puis être en présence du jugement d'existence le plus fort qui soit pour moi, le « je suis ». Non pas « je pense, donc je suis », non, le « je suis » au-delà de la pensée. Et au fond, c'est ça qui est très curieux. Heidegger veut dépasser Descartes. Est-ce qu'en réalité il dépasse Descartes? Quand il dit « penser l'être », oui, « cogito ergo sum », il bloque les deux. « Cogito » Essai. Je pense l'être. Et il met les deux comme étant le problème central, premier, de toute la pensée. Donc, le jugement d'existence dans le « je suis » prend toute sa force. Et en même temps, sa très grande difficulté, parce que le « je » est tellement encombrant que lorsque je dis « je suis », la plupart du temps, je reste dans mon « moi ». Et mon « moi » est saisi alors d'un point de vue très psychologique. Le « moi » de ce matin. N'est pas le « moi » d'hier au soir. Et le « moi » de ce matin n'est pas le « moi » après le petit déjeuner. C'est bien évident. Il y a des « moi » très différents. Et quand je dis « je suis », je dépasse toute cette conscience que j'ai du « moi » pour saisir quelque chose qui est au-delà de la diversité de ces consciences de mon moi, pour saisir l'existé qui m'est propre, mon existé, je suis. Et je mets l'accent non pas sur mon existé, mais sur existé. Vous voyez, moi, mon existé, existé. La philosophie première commence donc avec l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Et vous voyez bien le passage qui est très important à souligner entre l'expérience de ceci est et qu'est-ce que c'est que l'être. On passe du concret à l'abstrait. La différence entre blanc et blancheur. Vous avez l'expérience du blanc, vous n'avez pas l'expérience de la blancheur. C'est foudroyant. Blanc, blancheur. Qu'est-ce que c'est que la blancheur? C'est ce par quoi le blanc est blanc. Alors vous savez très bien ce que c'est que la blancheur. La blancheur vous renvoie à blanc. Bien, il y a quelque chose d'analogue entre ceci et qu'est-ce que c'est que l'être. L'être, c'est l'abstrait de ceci est. Dans le langage de saint Thomas, c'est le passage de ens à esse. Esse, c'est l'infinitif, c'est donc être. Et ens, ce qui est. Ce qui est est le concret. Et esse, être, c'est l'abstrait. Mais évidemment, hein, c'est pour ça que je dis analogiquement, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose que blanc, blancheur. Le concret blanc et l'abstrait blancheur. Blancheur, en termes scolastiques, c'est ce par quoi. En latin, le quo. Ce par quoi le blanc est blanc. Ce par quoi égale ici la forme. Ce par quoi le blanc est blanc. C'est la forme. Et c'est, d'une certaine manière, hein, la première induction. Ce passage de blanc à blancheur. On le fait tout le temps et on n'y pense jamais. Dans le langage, on fait ça tout le temps. On n'y pense pas. Vous n'avez jamais pensé à la différence entre blanc et blancheur. Même quand vous étiez en face d'une affiche, le persil, le blanc, blancheur. Le blanc absolu. Vous n'avez jamais rencontré le blanc absolu. Le blanc en soi. Ah, vous voyez, c'est curieux. Alors, si je commence à bien comprendre Platon, le blanc en soi, c'est la blancheur. Je vois qu'il n'existe pas. Tandis que pour Platon, blanc en soi, il veut que ça existe. Et là, vous touchez l'erreur. de faire de l'abstrait une réalité. Et c'est l'erreur de Hegel, c'est l'erreur de Platon à Hegel. Très, très curieux. C'est une petite erreur fondamentale qu'il faut dépasser quand on remet ses pieds par terre. Parce que blanc, vous le voyez, là, vous dites le mur est blanc, ce visage est blanc. Oh, comme vous êtes blanc ce matin. Vous ne dites pas oh, comme vous êtes la blancheur ce matin. Non, je n'ai pas encore dit ça. C'est admirable, vous êtes la blancheur. Oui, vous pouvez dire ça en blaguant. Alors, on sait très bien ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Mais la blancheur, je n'en ai pas l'expérience. C'est l'abstrait. C'est très important. Et ici, le concret. Vous voyez, la cérébralisation, qui est une petite maladie des intellectuels, consiste à rester dans l'abstrait. Et on va de l'abstrait à l'abstrait, de l'abstrait à l'abstrait, de l'abstrait à l'abstrait. On ne revient jamais au concret. Si je veux savoir ce que c'est que la blancheur, je dois toujours revenir à la diversité des réalités qui sont blanches. Je reviens tout le temps à cela. C'est en expérimentant, en regardant le mur blanc, le visage blanc, que progressivement, mon concept de blancheur s'enrichit. C'est pour ça que je reviens toujours à l'expérience. C'est l'expérience qui enrichit mon intelligence. Ce n'est pas l'abstraction par elle-même qui enrichit mon intelligence. L'abstraction précise. C'est pour ça que c'est très important. Ça précise. Dans le langage d'aujourd'hui, on dira que ça thématise. Je thématise blanc en disant blancheur. C'est-à-dire, je le présente devant moi pour regarder le blanc en soi. Et le blanc en soi, c'est cette blancheur. Mais je sais que c'est l'abstrait. Je sais que la blancheur n'existe pas. Je suis au-delà du jugement d'existence. J'ai pris blancheur. Bien, il y a quelque chose d'analogue. Je dis bien quelque chose d'analogue. C'est-à-dire, à la fois de très différent et en même temps de quelque chose de commun. Il y a quelque chose d'analogue entre ce qui est et l'être. Ce qui est, c'est-à-dire ceci est. Donc ceci est ce qui est. C'est concret. C'est ce que j'expérimente. La craie, ceci est. La table, moi-même, je suis. Donc, je peux mettre je suis aussi. Et vous interrogez, qu'est-ce que c'est que l'être? L'interrogation. Vous voyez, le propre de l'interrogation, c'est de thématiser. C'est-à-dire, puisqu'il y a un étonnement d'intelligence en face de la réalité, l'intelligence veut saisir plus profondément cette réalité. Alors l'intelligence interroge. Et en interrogeant, elle met la forme abstraite pour bien montrer ce qu'elle veut saisir. Dans le ceci est, ce qui l'intéresse, c'est est. Et non pas le ceci. Et donc, dans l'interrogation, je laisse tomber le ceci et je mets en pleine lumière être. C'est ça qui est très beau dans l'interrogation. C'est très, très beau le passage du jugement d'existence ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est très fort. Qu'est-ce que c'est que l'être? On voit très bien. Vous voyez, Socrate, le philosophe de l'interrogation. Et Aristote a repris l'interrogation. Et comme dit Merleau-Ponty, les idéalistes n'interrogent plus. Hegel n'interroge pas. Il n'a jamais interrogé de sa vie. Parce que s'il interroge, il n'est plus idéaliste. Et la grande manière de sortir de l'idéalisme, c'est d'interroger. Et de revenir à l'expérience. De voir toute la différence qui existe entre le ceci est et l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être? C'est très très important. C'est la première induction qui se fait instinctivement. Ça montre bien que l'induction n'est pas quelque chose d'artificiel. C'est inscrit dans le conditionnement de ma vie intellectuelle. Vous expérimentez, en expérimentant, vous mettez vos sens au service de votre intelligence, ou votre intelligence se sert de vos sens, et subitement l'intelligence se sépare des sens pour interroger. Quand vous interrogez, vous quittez le sol et vous vous élevez. Et vous vous élevez très haut. Qu'est-ce que c'est que l'être? C'est vrai, c'est une très belle interrogation. Vous pouvez y revenir tout le temps. Pour Heidegger, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est ça la métaphysique. C'est ça, je veux dire, la philosophie dans ce qu'elle a d'essentiel. L'interrogation, c'est un très grand moment de la vie intellectuelle. Parce que c'est l'intelligence dans son appétit, dans son désir de progresser. Alors elle interroge. Une intelligence qui n'a plus le désir de progresser n'interroge pas. Tandis que quand elle a le désir de progresser, elle interroge. Qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez, et si vous ne voyez pas ce premier moment, bien, si vous ne voyez pas toute la différence qui existe entre le jugement d'existence et l'interrogation, vous ne comprenez plus ce que c'est qu'une philosophie réaliste. Vous partez dans les mots, dans les définitions, et vous n'êtes plus en contact avec le réel, avec le « je suis ceci est ». Donc, l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, je disais que c'est pareil et différent entre blanc et blancheur. Parce que, au niveau de l'être, l'infinitif, être, la forme abstraite du « je suis », ce n'est pas une forme. Je ne formalise pas l'être en interrogeant. Je laisse l'être dans toute sa signification propre. Et c'est pour ça qu'il y a une petite différence entre les deux. Ici, je dis, je saisis la forme. C'est-à-dire, je saisis la qualité. La blancheur est une qualité. Or, la qualité est, comme nous le savons, puisque nous l'avons vu, la qualité est un mode particulier de l'être. Ce n'est pas l'être. Et donc, le passage de ceci est et de l'être a quelque chose d'unique. C'est tout à fait fondamental pour ma vie intellectuelle. Tout à fait fondamental. C'est pour ça que saint Thomas revient tout le temps sur cette fameuse phrase « Primo cadit in intellectus ens ». La première chose que mon intelligence saisit, c'est ce qui est. C'est la première chose. Donc, c'est radical pour ma vie intellectuelle de poser l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» C'est un événement, si vous voulez. C'est l'événement intellectuel par excellence. C'est pour ça qu'il faut souvent y revenir. Faut pas dire « Ah, j'ai posé une fois dans ma vie, ça y est. » Oh, pas du tout. Constamment revenez à ça, ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être? Ce passage du concret à l'abstrait. Bon, une fois que vous avez ce passage du concret à l'abstrait, à ce niveau fondamental, Comment allez-vous répondre? Qu'est-ce que c'est que l'être? Est-ce que vous allez suspendre? Rester en état d'ivresse intellectuelle? Qu'est-ce que c'est que l'être? Le bon père, à un moment donné, disait qu'il fallait avoir 40 degrés de fièvre pour comprendre ce que c'est que l'être, parce qu'elle a envoyé un petit nuage. Fermandel est un bourguignon, un historien du Moyen Âge, et qui avait un sens concret extraordinaire. Et c'était lui qui disait cette phrase, que j'ai retenue parce qu'elle était tellement belle. Les exégètes n'ont pas beaucoup d'herbe à brouter. Alors vous voyez très bien le père Mandonné, voyant une vache avec son piquet qui tournait autour. Vous savez, on voit ça, c'est très joli de voir ça, une vache autour de son piquet là. Ça fait un très beau rond, c'est extraordinaire comme la vache, décrit un rond merveilleux. L'herbe à côté est restée à sa taille, et tout, c'est complètement rasé. Surtout si vous le laissez un certain temps. Il n'y a plus rien du tout. L'exégète n'a pas beaucoup d'herbe à brouter. Vous voyez très bien son image. Alors il tourne en rond, indéfiniment. Pas tous les exégètes. Il y a des exégètes qui comprennent que c'est un service. La vache comprend quand elle broute que c'est un service pour couper l'herbe. C'est vrai, c'est un service de couper l'herbe. À la place d'avoir une tondeuse, on a la vache. Ce qu'il faut, c'est mettre les ronds successifs, les uns à côté des autres. Vous voyez la version de la finalité du service. Très très joli, il faut réfléchir là-dessus, parce que ça va très loin. Qu'est-ce que c'est que l'être? Comment vais-je répondre? En revenant à l'expérience. Puisque la signification de blancheur dépend de blanc. La signification de être dépend de ceci est. C'est pas en méditant longuement sur qu'est-ce que c'est que l'être que vous allez comprendre ce que c'est que l'être. C'est en revenant à l'expérience. Heidegger fait l'inverse. Il dit, il faut supprimer ceci est, parce que ce sont les étangs. Il faut supprimer le jugement d'existence, ce sont les étangs. Il faut donc m'enfermer dans l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» et comprendre que « qu'est-ce que c'est que l'être ?» c'est penser l'être. C'est vrai. Quand j'interroge « qu'est-ce que c'est que l'être ?» je pense l'être. Et penser l'être se donne dans l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Et donc je m'enferme à ce moment-là dans ma propre pensée. Et c'est à travers ma propre pensée que je vais essayer de trouver l'être. Vous voyez? Cogito ergo sum. C'est qu'en réalité, Heidegger qui veut redécouvrir l'être sauvage, comme dira Merleau-Ponty, redécouvrir l'être sauvage, en réalité, Heidegger s'enferme dans penser l'être. Penser l'être, ce n'est pas l'être. C'est curieux qu'Heidegger n'ait jamais vu ça. Penser l'être, ce n'est pas l'être. Pour savoir ce que c'est que l'être, vous devez penser l'être. Mais vous devez être suffisamment intelligent pour comprendre que l'être n'est pas penser l'être. Vous savez, c'est exactement la même chose. Quand vous aimez quelqu'un, l'ami, ce n'est pas l'amour de mon ami. Et quand vous identifiez l'ami et l'amour que vous avez pour votre ami, vous l'étouffez. Parce que vous l'embrassez et il ne quitte pas l'embrassement. C'est curieux, ça. C'est très important. C'est là où on quitte. on dépasse l'intentionnalité pour rejoindre le réel. Penser l'être, ce n'est pas l'être. Et là, Heidegger se met le doigt dans l'œil. Et on voit que Heidegger, là, n'arrive pas à dépasser tout le contexte idéaliste dans lequel il est. Il ne dépasse pas Hegel, tout en voulant le dépasser. Heidegger, c'est la philosophie des bonnes intentions. C'est la philosophie première des bonnes intentions. Il a une intention merveilleuse. Il n'y arrive pas. C'est curieux. Alors, je ne vais pas tomber dans le panneau. Hein. Parce que Heidegger est là pour me montrer qu'il ne faut pas tomber dans le panneau. Vous savez, quand il y a beaucoup de brouillard, on aime bien d'avoir une auto devant soi avec deux pivots. L'auto tombe dans le ravin, on ne fait pas la même chose. C'est une charité bien ordonnée. Allez, va, risque. Moi, je suis par derrière. Par derrière, je vais bien voir. Alors, tombe dans le ravin. Heidegger tombe dans le ravin du « je pense ». Il n'a jamais quitté le « je pense ». C'est extraordinaire, ça. C'est une fidélité au « je pense », mais pas une fidélité à l'être. L'être est au-delà du « je pense ». Alors, pour éviter ça, je sais que l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» et le jugement d'existence, ceci est l'être. Dans l'interrogation et dans le jugement, l'être a la même signification. Ça, il faut le découvrir. Hein. La signification de la blancheur et la signification de blanc, est-ce que c'est la même? Posez-vous loyalement la question. Est-ce que la signification de blancheur et la signification de blanc est la même? Est-ce que la signification de être dans l'interrogation et la signification de est, c'est-à-dire de être dans le présent, ceci est, est-elle la même? Pour Heidegger, ce n'est pas la même. Pour Heidegger, ce sont les étangs. Et les étangs, il faut les nier pour découvrir ce que c'est que l'être. Donc l'être a une signification totalement différente des étangs. Tandis que si nous sommes attentifs et un peu réalistes, nous dirons que l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» vient de mes expériences. C'est bien évident. J'ai d'abord posé des jugements d'existence avant de me poser la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Exactement. Avant de savoir ce que c'est que la blancheur, j'ai eu l'expérience du mur blanc, du visage blanc, du vêtement blanc, et ainsi de suite. Eh bien, l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» vient de toutes mes expériences. Ceci est, je suis. C'est comme ça que j'ai posé l'interrogation. Ça ne m'est pas tombé du ciel. C'est à partir de l'expérience que j'ai interrogé. Et je n'interroge que dans la mesure où il y a l'expérience. Quand il n'y a plus d'expérience, je n'interroge plus. L'idéaliste n'interroge plus. Ça, mettez ça en grand, hein. L'idéaliste n'interroge plus. Ce sont des perles, ça. C'est Merleau-Ponty qui a dit ça. C'était pas bête. Il aurait dit que ça dans sa vie, c'est pas mal. L'idéaliste n'interroge plus. Je trouve ça merveilleux. Il fallait le trouver. Une fois que c'est dit, on se dit, mais oui, c'est évident. Et alors, vous voyez en vous la progression de l'idéaliste quand vous n'interrogez plus. C'est dangereux. C'est pour ça qu'on revient tout le temps à l'expérience pour interroger. Parce l'expérience me met en face de quelque chose qui me dépasse infiniment. Eh bien, l'interrogation provient de l'expérience, par le fait même. La signification de être est la même que l'être dans ceci est. La seule différence, c'est qu'il y a deux manières différentes de le saisir. Il y a deux manières différentes de saisir l'être dans le ceci est. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Et ces deux manières différentes de le saisir, c'est une manière concrète et une manière abstraite. Ces deux manières, concrètes et abstraites, représentent tout simplement des modalités différentes de ma connaissance. Les modalités différentes de ma connaissance ne me donnent pas la signification de ce qui est, de l'être. L'être, c'est ce qui spécifie mon intelligence, ce qui détermine mon intelligence, alors que le concret et l'abstrait font partie du conditionnement de mon intelligence. Petite distinction capitale. La différence entre ce qui spécifie mon intelligence, ce qui détermine mon intelligence, et la manière différente dont je saisis cette détermination. Très très important ça. Parce que la phénoménologie ne fait plus cette distinction. Alors je vois l'erreur de Heidegger. Il a confondu la détermination et le conditionnement. Et il a confondu ça par rapport à l'être. Il a fait que le conditionnement intellectuel différent de l'interrogation va venir donner à l'être une nouvelle détermination. Et par le fait même, l'être saisi dans l'interrogation devient autre que l'être saisi dans le jugement. C'est ça l'erreur fondamentale de Heidegger. C'est une erreur que saint Thomas avait déjà relevée pour les néoplatoniciens. Alors oui, comme c'est curieux, il y a du néoplatonisme dans Heidegger. Heidegger est un néoplatonicien. Il a horreur de Platon. Il retombe dedans. Très étonnant, ça. Et c'est très important de saisir ça. Autre chose, et je reprends différemment pour que vous compreniez bien. Autre chose, ce qui détermine ma connaissance, autre chose, ma manière de saisir la réalité. Le conditionnement de ma vie intellectuelle n'est pas ce qui détermine, ce qui spécifie ma connaissance. C'est une distinction fondamentale qui me permet de voir la limite de la phénoménologie et du néoplatonisme, et qui me fait comprendre toute la différence entre le réalisme et le néoplatonisme. Et ça, c'est très très important. Si on ne fait pas cette distinction-là, on n'entre pas en philosophie première. C'est la porte d'entrée. Comprendre que quand j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être et le jugement d'existence ceci est, je suis en face de deux modalités différentes, le présent et l'infinitif. Deux manières différentes de saisir le verbe, le présent et l'infinitif. Seul le présent est saisi directement dans l'expérience. L'infinitif, c'est déjà une réflexion sur ma vie intellectuelle pour mettre le verbe dans une forme substantielle. L'infinitif. Qu'est-ce que c'est que l'infinitif? Quand vous pensez à l'infinitif comme forme grammaticale, c'est isoler le verbe pour le regarder pour lui-même. Alors que dans la forme du présent, le verbe est lié à un sujet. Je suis ceci. Et... Oui, comme c'est curieux, comme le langage est signe de ma pensée. Ce n'est pas ma pensée.